À l'occasion de la tournée 2010 de la folle histoire des arts de la rue, proposée par Carwan et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, La Grenouille vous livre 8 versions très subjectives de cette histoire. Après Florian Gaber, c'est aujourd'hui José Rubio qui clôt provisoirement cette série. José Rubio est président de Carwan et directeur technique de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette. C'est à Paris. Il est accompagné d'Anne Guillot, délégué général de Carwan. José Rubio, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de te proposer de nous donner ta version d'une histoire des arts de la rue, j'aimerais que tu nous racontes en deux mots l'histoire de Carwan. Je crois créée en 2000.
Donc effectivement, Carwan a été créé en 2000 par Joël Chausson et Michel Almond pour promouvoir les arts de la rue, les arts du cirque, et être un opérateur culturel qui permet de diffuser en fait ces secteurs artistiques dans le territoire autour de Marseille. Et maintenant, on est sur une région très large. Alors cette dimension régionale a été le premier pas, je pense, de développement de Carwan. Maintenant, on en est au-delà, puisqu'il y a des projets qui vont au-delà des frontières, puisqu'il y a une région élargie au Piémont et à l'Italie. Et puis, il y a des projets dans les perspectives à venir dans le cadre de Marseille 2013 avec des artistes internationaux. Donc il y a une volonté d'être ancré évidemment dans le territoire de la région, mais également essayer de tisser des liens, d'avoir des passerelles vers des organismes nationaux comme Orlémur, avec d'autres régions et puis à l'international aussi.
Carwan, opérateur culturel, pôle de développement, mais aussi une base de données, et puis un lien entre les collectivités publiques, donc le politique, et les artistes. Ça ne te donne pas parfois l'impression d'avoir un peu le doigt entre le marteau et l'enclume ?
Si, évidemment, mais Anne, qui est à nos côtés, Anne Guillot, qui est la directrice, pourrait en parler plus que moi, parce qu'elle est confronté directement à ça. Mais je pense que de manière plus générale, c'est vrai que ces situations-là sont délicates, de plus en plus délicates pour les opérateurs. J'espère que l'avenir sera pas trop morose, mais c'est vrai qu'on est entre le marteau et l'enclume.
Anne Guillot.
Je crois que Carwan est de fait entre le marteau et l'enclume, et que ça devient un exercice. Et cet exercice ne peut se faire qu'avec prioritairement la confiance des artistes et l'assurance que oui, nous nous battons pour eux, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour qu'ils soient diffusés et qu'ils jouent, et aussi la confiance par rebond des collectivités. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est complexe, mais en même temps, il y a une vraie demande de cette forme artistique sur les territoires. Donc, on joue entre le marteau et l'enclume. Parfois, on a la tête qui résonne très fort et on s'épuise. Et puis, parfois, on éclate de rire et tout va bien.
José Rubio, revenons à nos moutons, si j'ose dire, parce que des moutons, il n'y en a pas beaucoup dans le domaine des arts de la rue. Tout au long de cette série, 8 histoires des arts de la rue, j'ai traditionnellement commencé par le commencement, et on ne va pas déroger à la règle. Donc à quoi ferais-tu remonter, toi, cette histoire des arts de la rue? Quel grand événement fondateur?
Il y a un élément qui, pour moi, est un peu fondateur dans mon histoire à moi et mon rapport aux arts de la rue, c'est le Festival d'Aurillac, la création du Festival d'Aurillac en 86 par Michel Crespin, qui est pour moi un peu un compagnon dont je me sens très proche et que j'aime bien citer parce que c'est, je pense, une impulsion extrêmement importante que Michel a donnée aux arts de la rue. Mais je pense que lui a peut-être remis au goût du jour des pratiques qui étaient très anciennes et qui sont des pratiques de vie collective sur l'espace public et qui sont, je pense, ancestrales. Alors, il y a évidemment une forme contemporaine des arts de la rue qui a effectivement pris naissance, je pense, après 68, dans un mouvement de revendication, d'appropriation de l'espace public comme étant un espace de liberté. Mais je pense que ça s'appuie aussi sur des traditions carnavalesques, religieuses, et même de spectacles, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, et à travers le monde. Il y a des tas de pays en Inde, en Chine, où on pratique des choses sur l'espace public. Donc il y a une forme aujourd'hui à laquelle on se réfère, qui sont les arts de la rue, qu'on connaît aujourd'hui. Mais tout ça ne pourrait pas exister, je pense, s'il n'y avait pas cette espèce de conscience d'une antériorité, quelque chose de fondateur, peut-être dans nos gènes, parce que je pense que les apéros géants auxquels on assiste ces derniers jours sont une nouvelle forme d'un moment que les jeunes aujourd'hui ont envie de créer. Alors pour l'instant, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien, c'est juste une convivialité qu'on essaye de retrouver. Je pense que c'est très important que cette pratique de la convivialité, cette pratique de se réunir ensemble, et évidemment en ce qui nous concerne, qu'il y ait un échange entre une pratique artistique, une proposition artistique et un public, ça c'est très important, puisse se faire. Donc, je pense qu'on est dans une société qui a besoin, et je pense de plus en plus, de développer ces moments-là. Alors évidemment, nous on est là pour parler de la pratique artistique et de la confrontation entre une pratique artistique et un public qu'on veut le plus large possible. Donc c'est la société tout entière qui doit être confrontée à ça. Pour moi, il n'y a pas une origine historique très précise. Il y a une succession, je pense, de pratiques ancestrales, et puis il y a quelque chose de contemporain, des formes contemporaines en tout cas en France et en Europe, qui sont après 68, à partir des années 70, et dont un des grands élans, c'est pas le seul évidemment, mais un des grands élans en tout cas, moi j'ai vraiment côtoyé l'ensemble des acteurs de ces secteurs-là à partir d'Aurillac et de 86.
Il y a un aspect qu'on a assez peu discuté jusqu'à présent avec les différents intervenants et protagonistes de cette série 8 histoires des arts de la rue, c'est celui de l'ingénierie des arts de la rue. Or, tu as été directeur technique du Festival d'Aurillac, que tu citais à l'instant. Actuellement, tu es directeur technique de la Grande Halle de la Villette. Comment est-ce que tu as vu évoluer la scénographie, la machinerie, les dispositifs techniques qui sont mis en œuvre dans les arts de la rue, justement, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui?
Alors ça relève de ce sentiment de liberté, c'est-à-dire qu'au départ les arts de la rue ont pratiqué, ont mis en œuvre des propositions qui étaient des propositions à partir d'éléments très simples et les moins coûteux possibles. Donc ça a donné une esthétique. Je prends un exemple que en particulier à Marseille tout le monde connaît, c'est générique vapeur avec les bidons transhumance, c'était une esthétique. Ce côté ferrailleur de rue a perduré, perdurant encore, mais on voit bien qu'il y a eu une évolution en 20-25 ans, c'est-à-dire que les moyens se sont quand même développés, donc on a pu inventer d'autres formes, on a pu donner d'autres, une autre identité, une autre façon de créer. On voit maintenant que la vidéo avec Complex Capharnaüm a commencé à investir l'espace public et ça a permis de transformer les scénographies, d'occuper différemment l'espace, de travailler à d'autres échelles, c'est-à-dire de travailler à l'échelle d'une façade, d'une ville, d'une place. Et je pense que cette évolution évidemment souhaitable, et je souhaite et on se bat pour ça, pour que les moyens mis à disposition des arts de la rue soient égaux, équivalents à ceux qu'on pratique dans d'autres pratiques artistiques en salle ou ailleurs, de façon à ce que justement il n'y ait pas une esthétique de la pauvreté ou du misérabilisme. Je pense que ça, pendant un moment, ça a desservi, même si au départ c'était quelque chose de très, très novateur, et ça c'était partagé par une partie du public, enfin une partie du public était sensible à ces formes-là. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit que la marque de fabrique d'un arté art de la rue soit trop marqué, trop identifié. Je pense qu'il faut inventer en permanence, inventer. Et ce secteur-là est très inventif. Il y a eu des formes de gonflables, il y a du feu, il y a du... Et c'est jamais pratiqué de la même manière. Toutes sortes de compagnies inventent en permanence des formes. Je trouve qu'il y a une invention extrêmement grande ces dernières années dans ce secteur-là.
Du misérabilisme que tu dénonçais, à juste titre d'ailleurs, au grand spectacle qu'on a aussi parfois dénoncé. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à un certain moment, on est allé vers des formes d'art de rue qui étaient extrêmement spectaculaires et que peut-être qu'aujourd'hui, on en revient à des formes plus intimes?
Alors, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un mouvement de balancier permanent. C'est-à-dire que je me souviens une année à Aurillac, on avait beaucoup travaillé sur les formes foraines. Donc il y avait eu une partie du festival qui avait été consacrée à ce qu'on appelait l'arène foraine, avec des formes foraines dans des lieux clos, fermés. Et en fait, on a eu envie après, quelques années après, de ressortir dehors. Alors cette nécessité d'être dans des lieux clos était arrivée à un moment où on avait senti ce besoin de retrouver une proximité, de retrouver une écoute. Et puis après, il y a eu de grands déambulatoires, Opposito, Générique, Compagnie Off, et puis d'autres, Trans Express, dans des formes gigantesques et que j'apprécie. Je pense aussi que cette monumentalité est nécessaire à la ville. Je pense que le géant de Royal est quelque chose qui reste dans la mémoire d'une ville, et c'est important. C'est écrit dans la pierre, c'est écrit dans les têtes, c'est écrit dans les larmes des gens qui ont pleuré d'émotion parce qu'ils ont vu ce genre de choses. Donc je pense que c'est nécessaire. Après, c'est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exclusive. C'est-à-dire que Ilka Schoenbein, qui est une marionnettiste extraordinaire qui joue devant 200 personnes, ou qui jouait, elle joue moins dans l'espace public, mais qui jouait devant 200 personnes, est tout aussi légitime et à mon avis aussi forte que le géant. Être confronté en tant que public à cette forme différente est nécessaire, et cette ouverture, cette diversité est nécessaire.
Dans l'espace public, pour lequel il n'est pas aujourd'hui si simple que ça de trouver un espace public qui l'accueille. D'abord parce que l'espace est souvent approprié, et puis aussi parce que l'espace public est l'objet aujourd'hui de très nombreuses réglementations qui viennent limiter l'intervention des artistes. Alors sur cette question de la réglementation, des responsabilités, du lien avec les autorités, on revient peut-être là sur la question politique. C'est plus complexe aujourd'hui, José Rubio ?
Ça a toujours été complexe. On est sur l'espace public, donc on est sur un espace qui doit être partagé. Alors, on le partage avec probablement des partenaires, des intervenants différents aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors, il y a deux éléments dans la question. Il y a d'abord la question du partage. Je pense que soit on est, comme il y a encore... vingtaine d'années dans un théâtre d'intervention, un théâtre et des propositions qui sont de l'ordre de la surprise, et auquel cas bon, on s'approprie. Et donc on subit les conséquences. S'il y a l'intervention des forces de l'ordre, on l'a provoqué, ou on l'a même peut-être souhaité. Après, si on convoque un public, et si c'est un festival ou une manifestation qui est gérée sur l'espace public, évidemment, il y a une réglementation qui s'est stratifiée, qui s'est, au fil des ans, qui a été un peu augmentée, mais pas tant que ça. Il y a une croyance, non pas infondée, parce qu'il y a effectivement eu des accidents qui ont amené à ce que la réglementation se densifie, mais il n'y a pas de réglementation par rapport à un espace comme un établissement recevant du public intérieur, un théâtre ou un stade. La réglementation est bien inférieure à ce qu'on vit dans un ERP, donc un établissement recevant du public. Ce qui est difficile, c'est que la société tout entière a développé une relation à la sécurité, à l'assurance, au sentiment qu'il faut être en sécurité à tout moment, en toute situation. Dans nos vies personnelles, on est dans cette situation-là. Donc c'est vrai que la société a avancé dans ce sens-là, donc les arts de la rue ne sont pas absents de cette démarche. Donc je ne crois pas à une augmentation de la réglementation, à une vigilance plus grande certainement, comme tout le corps social. Ça c'est sûr, et c'est vrai que les élus, les administrations sont peut-être moins ignorante de la réglementation à appliquer, peut-être qu'elle est plus strictement appliquée. Il n'y a pas un corpus réglementaire très important. Ça, c'est sur la question de la réglementation. Sur la question de l'appropriation de l'espace, enfin de la, du partage de l'espace public, de la façon dont on s'installe sur l'espace public, il y a une légitimité qu'il faut acquérir. Alors aujourd'hui, sur l'espace public, on a plein d'interlocuteurs avec qui il faut partager cet espace. D'abord, nous, comme citoyens, nous sommes légitimes sur l'espace public. Donc si l'espace public est pendant un temps occupé par une manifestation, par un spectacle, la pratique qu'on peut avoir à ce moment-là doit être, entre guillemets, négociée. C'est-à-dire que je suis comme citoyen, je dois être prévenu de ça et savoir que si j'ai un itinéraire à prendre, ce jour-là, je ne pourrais pas prendre cet itinéraire-là. Donc il y a une gestion de l'espace public avec, évidemment, le citoyen, les acteurs de l'économie, de la vie locale qu'il est nécessaire d'avoir. Et puis, la dimension peut-être qui a été ajoutée, et là, il y a, je pense, une dérive actuelle, c'est la privatisation, je mets des guillemets autour de ce terme-là, de l'espace public, qui est fragmenté. Fragmenté parce qu'on a des parkings qui sont concédés, on a des terrasses qui sont occupées par un tel, on a des... Voilà, toutes sortes de choses, mais là, je parle d'un secteur commercial, mais... Pour de très bonnes raisons et avec de très bonnes intentions, on fragmente l'espace aussi parce qu'on a une voie de bus, on a une voie cycliste et j'aime bien quand je suis cycliste avoir une piste cyclable, mais on fragmente l'espace public parce qu'on veut un espace public de plus en plus fonctionnel et donc à chaque fonction, un espace, une destination, une forme et du coup l'espace public est fragmenté et pas libre, enfin, comme on le souhaiterait parfois.
Pour conclure cet entretien, je vous propose de commenter ce que vous percevez d'un futur possible des arts de la rue. Est-ce que tu es optimiste par rapport à ce futur des arts de la rue, José ?
Moi, je suis très optimiste. Ce que je vois dans les publics relativement jeunes, le public qui a entre 15 et 30 ans aujourd'hui, c'est justement ce désir de se rassembler davantage. Le fait que de plus en plus on est isolé dans nos pratiques professionnelles, privées, on a besoin de se rassembler, de partager des choses ensemble. Et je pense que l'espace public peut justement favoriser ce partage-là. L'humanité a besoin de ce rapport-là, de se côtoyer, de se confronter. Et j'espère que justement, on y arrivera de plus en plus à échanger. Et cette société du bien-être qu'on souhaite tous, elle passe par là aussi.
Merci José Rubio. Une série d'entretiens qui s'achève autour de cette édition 2010 de la Folle Histoire des Arts de la Rue. Anne Guillot, est-ce qu'une nouvelle édition de la Folle Histoire des Arts de la Rue se dessine ?
Oui. On attend une prochaine édition de la Folle Histoire donc dans 2 ans, en 2012, avant de se projeter vers une édition spéciale, tout à fait spéciale, en 2013.
Rendez-vous est pris. Merci Anne Guillot. Merci José Rubio. Retrouvez toute la programmation de la Folle Histoire des Arts de la Rue sur le site www.carouane.info et retrouvez aussi les 8 histoires des Arts de la Rue. Elles sont en écoute à la carte sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.